Donc, d'abord, je commence rituellement, mais sincèrement, à remercier les organisateurs de me donner l'occasion de dire quelques mots. Donc, vous voyez le titre là de l'intervention. L'idée est effectivement de construire quelques éléments de réflexion après 3 ans d'existence du dispositif. Alors je vais m'y prendre de la façon suivante, c'est-à-dire j'ai fait un certain nombre de... J'ai isolé un certain nombre de points dont on peut penser qu'en fait ils sont des points d'état des lieux. Et pour chacun de ces points, j'ai proposé une possibilité de développement. Alors cette possibilité, donc, vous verrez, je vous donne un exemple. Par exemple, là vous avez le point A1, c'est la présentation, et puis le point A2, c'est une proposition par rapport au point A1. Et l'idée, c'est que cette proposition par rapport, cette proposition, ce rêve, comme disait Michel Lusso tout à l'heure, il est ancré dans la réalité. C'est-à-dire, c'est que j'essaie de penser vraiment un prolongement par rapport à ce qui existe déjà. Peut-être êtes-vous tombé sur un livre fort intéressant, j'ai oublié le titre exact, mais il est de Bernard Friot sur la retraite. Et donc la retraite, c'est un sujet extrêmement intéressant, même quand on est très jeune, puisqu'il explique, Bernard Friot, qu'en fait, la révolution, ça se fait en considérant ce qui existe réellement. Et il dit, actuellement, aujourd'hui, dans les pays européens, la retraite, c'est un état tout à fait intéressant, plus exactement le retraité. Et si vous lisez son bouquin, c'est un éloge de ce que c'est que la vie d'un retraité. Alors c'est pas n'importe lequel, etc. Mais bon. Donc l'idée, je m'inspire de cette idée-là pour dire que je crois que l'amélioration de l'état des choses, elle est pensée très pertinemment si on la conçoit en liaison directe avec ce qui existe. D'où la structure de mon exposé. Alors je terminerai par des conclusions, n'hésitant devant aucune originalité, qui seront réflexives. Donc je garde la réflexion pour la fin. Alors, premier point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est les ressources. Alors, les ressources, je suis frappé par le fait que les Léa, effectivement, produisent des ressources pour les chercheurs, par exemple en tant que protocole de recherche établi dans certains Léa, ou également des plateformes, par exemple, intégrant du matériau empirique avec des analyses que j'appelle idéales typiques, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Bon, ça, c'est dire les choses très vite, évidemment, mais tout sera dit très vite. Et puis, il y a des ressources pour les professeurs aussi, qui peuvent servir en formation initiale, en formation continue ou en formation de formateurs. Et puis il y a aussi des ressources qu'on peut considérer comme des ressources à la fois pour les professeurs et pour les chercheurs. Alors, en quelque sorte, je suis frappé par à la fois la quantité et la qualité des ressources qui sont produites au sein des Léa. Et je pense qu'il faudrait, ça sera la toute fin de mon intervention, je pense qu'il faudrait vraiment se pencher là-dessus de manière quasi systématique et réflexive, justement. Alors, une proposition dans ce cadre-là, ça serait ce que j'ai indiqué à la fin, c'est-à-dire que les ressources, qu'on insiste sur le fait que la fonction de ces ressources soit ce que j'ai écrit là, de faciliter ce que j'ai appelé la compréhension réciproque et l'action conjointe des professeurs et des chercheurs au sein d'une instrumentation spécifique pour la construction commune d'une référence commune. Autrement dit, moi, ce qu'on me disait... les Léa, qu'est-ce que ça peut apporter de plus important et de plus intéressant? Eh bien, je dirais cette phrase-là. La construction commune d'une référence commune à qui? Aux professeurs et aux chercheurs. Donc je vais revenir sur ce point dans ce qui suit. C'est pour ça que j'ai indiqué qu'on fait suite. Un deuxième point qui est le lien donc avec des masters de formation d'enseignants. Je crois qu'il y a dans certains Léa des étudiants qui, en formation initiale, qui sont impliqués. Donc ça veut dire qu'il y a une familiarisation de ces étudiants avec la pratique et avec la recherche. Donc l'idée, ça serait de faire, de construire, de continuer à faire ce qui se fait dans certains LEA, c'est-à-dire un cercle vertueux entre le travail des étudiants et le travail du LEA, chacun alimentant et profitant à l'autre. Donc la proposition, ça serait celle-ci. Alors on en parlait, on en disait un mot tout à l'heure, Michel Lusseau en disait un mot. Une fonction importante des LEA, ça pourrait être de contribuer à la formation initiale sur le long terme, avec une participation au départ relativement périphérique des étudiants, et puis qui devient de plus en plus centrale, et puis qui joue un rôle crucial, par exemple dans la production des mémoires. Donc vous voyez, là aussi, c'est une manière de penser la formation qui pourrait être, peut-être qui ressemblerait un peu à une formation en atelier, mais évidemment un atelier d'un genre nouveau et d'une conception nouvelle. Donc j'aurais la nécessité, puis ajouter, de penser un modèle formation qui intègre ce type de participation, donc les liens avec les SP. Et pour ça, il faut nécessairement, ça a été dit plusieurs fois ce matin, et les travaux que j'ai vus ce matin en témoignaient, ça doit dire que les travaux des LEA se déroulent dans la durée, voire dans la longue durée. J'ai été étonné, dans certains cas, de constater que, finalement, on pouvait juger que 3 ans, c'était beaucoup pour un LEA. Hein. Enfin, moi, mon expérience personnelle, c'est que les choses bougent dans les rapports entre professeurs et chercheurs au bout de... peut-être même plus que ça. Donc, il faut du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il faut se donner des structures vraiment résolument pensées sur la longue durée. Qui a vraiment peu de... Alors, on pourrait dire, par exemple, qu'il faut peut-être 10 ans pour faire quelque chose d'intéressant, de vraiment intéressant, dans la collaboration, dans la coopération, dans un travail collectif. Alors 10 ans, ça fait beaucoup, mais peut-être c'est trop, mais voilà, on n'est plus à « la semaine prochaine, on va faire quelque chose de bien », qui est un peu quand même le fonctionnement général auquel nous amène notre tropisme. Alors, un autre point, c'est celui-ci, c'est... Le lien, l'idée, ça serait que... Vous voyez, j'ai pris une formulation du même type, quoi, symétrique. Hein, le lien avec des masters recherche, cette fois, la familiarisation serait avec la pratique et la recherche, et plus du côté de la recherche. Donc le même type de cercle vertueux, etc. Voilà la proposition. Alors vous verrez que les propositions que je fais sont des propositions, évidemment, tout à fait déraisonnables. C'est-à-dire que ici et maintenant, il n'y a à peu près aucune chance pour qu'elles rentrent en fonction. Enfin, ce n'est pas une raison pour ne pas les faire, bien entendu. Donc l'idée, ça serait de systématiser cette implication en organisant des coopérations. Vous pouvez lire. Avec les masters en éducation et les écoles doctorales du pays. Par exemple, un des moyens de légitimer les LEA, ça pourrait être de dire que les écoles doctorales qui sont concernées par des recherches en éducation sachent que on peut construire des masters et on peut construire des masters avec des LEA. On pourrait imaginer aussi développer des financements de thèses liés aux LEA. Des thèses dites fléchées, c'est-à-dire des thèses qui ont un sujet déterminé par avance. On pourrait même imaginer des thèses... Vous savez que les présidents d'université, dans certaines universités, peuvent proposer des sujets de thèse. On pourrait même encore plus rêver et imaginer que des présidents d'université se disent « Oh, mais là, il y a un LEA extrêmement intéressant. On pourrait financer une thèse sur ce LEA. » Vous voyez que mon rêve n'arrête... C'est un vrai rêve. Quoi. Mais non, je pense que tout ça, c'est un rêve, mais en même temps, il suffirait de pas grand-chose pour que ça existe. Relation cruciale, effectivement, LEA-SP. Alors, certains LEA qui existent sont liés organiquement à des SP et sont reconnus par eux. Et là, il y a vraiment un problème de connaissance, au sens strict. Hein. J'ai entendu pas mal de collègues dire que, ah tiens, moi, les LEA, j'avais jamais entendu parler, par exemple. Hein. Donc il y a un manque de connaissances. Et puise de la reconnaissance. Mais on pourrait aussi dire qu'il faudrait puiser de la reconnaissance, qui est une denrée relativement rare hein, de nos jours. Dans l'éducation nationale, dans la recherche. Mais on peut se dire qu'elle est moins rare de nos jours que ce qu'elle a été il y a quelques années. Donc... Peut-être que tout va vers le mieux. Donc l'idée, ça serait contractualiser cette relation triangulaire. Léa, IFE, SP, ce qui veut dire la conférence des présidents d'université, les directeurs d'SP, etc. Donc les Léa pourraient être vraiment des instruments de formation et des instruments de recherche, comme je l'ai indiqué ici. On parle vraiment du Léa comme instrument, comme laboratoire vivant. C'est vraiment, je pense, de cette façon qu'il faudrait pouvoir le concevoir. Alors, point suivant, c'est... Alors, j'ai fait le rapport des chercheurs au Léa, puis après, je parlerai du rapport des professeurs au Léa. À regarder ce qui se passe un petit peu dans les Léa, je pense qu'il y a une tension entre le rapport des chercheurs au Léa, qui peut être soit un rapport d'application, ou soit un rapport de coopération, mais ça peut être les deux dans le même Léa, hein, c'est pas forcément disjonctif. Et il me semble que le Léa peut donc se voir, implication logique, comme terrain d'application ou comme instrument de recherche coopératif. Qu'est-ce que c'est pour moi un instrument de recherche coopératif ? C'est vraiment un instrument de recherche dans lequel, j'y reviens, on crée conjointement une référence commune. Et la question de la référence, c'est-à-dire on sait qu'on parle de la même chose quand on discute, qu'on soit professeur ou chercheur, ça suppose, à mon avis, vraiment la construction conjointe, c'est un processus de la référence. Et pour construire conjointement la référence, il faut des outils, il faut par exemple des vidéos de pratique co-commentées, co-analysées, comme ça se fait dans certains Léa, et comme ça se développe de plus en plus. Et effectivement, le Léa devrait pouvoir participer, comme c'est le cas, à une opération nationale de recherche, dont on a parlé ce matin, dont Luc Trouche a parlé ce matin notamment. Alors, il faudrait, de mon point de vue, dans cette perspective-là, construire une espèce de réflexion qui soit... Alors, j'indique réflexion suivie des faits, parce que nous savons tous que les réflexions non suivies des faits sont aussi une grande caractéristique de la... de l'administration et de la recherche de l'éducation dans notre grande maison commune. Donc, réflexion suivie des faits. Qu'est-ce que ça change à la recherche et à la profession de chercheur de travailler dans un Léa ? Mon idée, c'est à peu près la suivante, c'est que être chercheur dans un Léa, ça devrait modifier profondément le métier de chercheur. Alors, en quoi, comment, tout ça est à discuter. Mais c'est une hypothèse, si vous voulez, ou une conjecture, ou une idée. Alors, il y a une position tout à fait intéressante à discuter, qui est celle d'un chercheur ou d'une chercheuse, puisqu'elle s'appelle Jacqueline. J'ai mis en gras ce qu'il faut lire, donc ça, c'est pas la peine. Mais voilà ce que dit Bulterman Boss dans un article paru en 2008, dans cette excellente revue que je vous recommande chaudement, qui s'appelle Educational Research. Et donc, chercheur en éducation, quoi. Mais vous aurez traduit de vous-même. En gros, son article, c'est « La pratique clinique, c'est bien ». Enfin, la clinique, c'est bien. Mais « Clinical Research Practice Bombs ». Bon, vous lisez vite, là. Et puis... Vous voyez ce qu'elle dit dans la pratique clinique, en fait, à cause de l'entrecroisement des positions de professeurs et de chercheurs, les chercheurs sont inclinés automatiquement à construire leur travail pour les besoins de la pratique professionnelle. Les professional skills, les compétences, mais le mot skill est un mot beaucoup plus complexe et raffiné que compétence, je pense, rendre durable, facilite la recherche. Alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Pendant leur carrière de recherche, les chercheurs restent cliniquement actifs. C'est pas mal, parce qu'on pense à la mort. Peut-être qu'il y a des chercheurs cliniquement morts. Bon, c'est des choses graves, mais et d'autres cliniquement actifs. enfin les choses graves, je veux dire, pas les chercheurs cliniquement morts, ce à quoi ça renvoie. Oui, alors après, c'est discutable ce qu'elle dit sur c'est pas de produire de la théorie, ça se discute. Mais en fait, ce qu'elle dit qui est bien, c'est pour ça, la théorie est un moyen, mais pas le seul moyen. Bon, etc., etc. Et alors ça, elle dit ça dans son article qui a été très commenté. Si vous prenez ce numéro-là de Educational Research 2008, ça doit être le numéro d'octobre de 2008, c'est sur Internet. Et vous voyez, elle a fait un article, et puis après, 7 ou 8 personnes qui ont répondu à son article. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Évidemment, c'est passé totalement inconnu, totalement sous silence dans la recherche. Et puis après, elle va un peu plus loin, et c'est extrêmement intéressant ce qu'elle dit, mais très contestable en même temps. Hein. Alors, un clinique, hein, il demande une maîtrise duale. Hein. Alors là, elle vient sur la recherche en éducation. Labawi, c'est un historien de l'éducation américaine très, très considérable qui a commenté l'article de Beltalman Voss. Alors, vous voyez, c'est ça qu'elle dit. En gros, une nouvelle génération semble capable de transcender la présente structure dualiste. La présente structure dualiste, c'est qu'il y a des gens qui font de la recherche, il y a des gens qui sont enseignants. On va transcender ça. Et puis après, elle est quand même gentille, mais elle dit, en même temps, la génération actuelle de chercheurs a été socialisée dans la structure dualiste. Ces chercheurs n'ont pas les skills d'un professeur. Et pour eux, pour la plupart d'entre eux, les acquérir, ça ne serait pas une petite affaire. Je traduis librement. Hein. Et donc, le dialogue avec les praticiens, c'est la seule manière pour les chercheurs de gagner de la connaissance, d'avoir de la connaissance sur les pratiques d'éducation. Dans le court terme, nous dit Beltalman Voss, le dialogue peut être encouragé. Sur le long terme, toutefois, la séparation entre la connaissance et l'action demande d'être rectifié si un vrai progrès est en vue et doit être construit. Vous voyez, elle n'y va pas de main morte, puisqu'en fait, elle dit la séparation, le dualisme entre des chercheurs d'un côté et des professeurs de l'autre, c'est à terme mort. Alors vous doutez bien, effectivement, qu'il y a eu beaucoup. Ça a soulevé de l'encre, si j'ose dire, dans le numéro en question dont je parlais. Donc c'est une position à discuter. Mais c'est pour dire qu'il y a des positions de gens qui sont tout à fait intéressants, honorables et considérés, puisque publier une revue, un texte phare dans la revue Educational Researcher, c'est pas facile à faire. Eh bien, il y a des questions qui nous concernent, nous, dans notre pratique de tous les jours, en tant que professeur ou en tant que chercheur. Donc la question le point par lequel je terminerai cet aspect-là, c'est vraiment la question du rapport à l'empirie dans la recherche en éducation. Moi, je crois qu'un chercheur en éducation, c'est forcément un anthropologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche, qui tente de comprendre ce qu'est la pratique, mais c'est forcément aussi, à un certain moment, un ingénieur. Mais le professeur aussi est un ingénieur. Donc il me semble que dans cette discussion entre posture anthropologique et posture d'ingénierie, il y aurait peut-être à trouver des choses intéressantes. Alors le rapport des professeurs au Léa, même motif, même punition, c'est-à-dire rapport d'application ou rapport de coopération. Une question cruciale pour moi dans les Léa, c'est celle d'après, c'est quelle est la part prise par les professeurs dans la co-conception. Quand on regarde les Léa, soit de l'intérieur, quand on en connaît quelques-uns, mais on ne peut pas en connaître beaucoup forcément, ou soit de l'extérieur, ce qui est le plus facile, on voit que cette part prise par les professeurs est très variable. Et qu'on pourrait imaginer que ça soit un objectif, la co-conception. Et une co-conception profonde, pour en revenir. Donc là, les propositions que je fais sont ensuite là. Je pense qu'il faudrait développer le processus de diplomation des professeurs. Par exemple, ça peut supposer l'établissement de conventions spécifiques entre l'IFE, les Léa, et des masters et écoles doctorales. Ça veut dire, par exemple, qu'on peut imaginer qu'un professeur, pour son travail dans un Léa, il a, s'il n'en a pas déjà un, l'équivalent d'un Master 2, sauf le mémoire, par exemple. Ou l'équivalent d'une thèse, ou il produit une thèse. Alors, thèse, c'est une idée de Shulman, qui est quelqu'un qui a fait un travail tout à fait remarquable sur... D'ailleurs, son livre de synthèse s'appelle « The Wisdom of Practice », hein, la sagesse de la pratique. Et Shulman, c'est l'auteur aussi de la notion de « pedagogical content knowledge », pour ceux à qui ça peut dire quelque chose, la connaissance pédagogique du contenu. Et Shulman, dans la même revue de Educational Researcher, pour lequel je n'ai pas d'action particulière, publie un article en 2006 où il dit aux États-Unis ou ailleurs, il y a des PhD et il y a des MD. PhD, ça doit vouloir dire philosophical, enfin, ça n'a rien de philosophique, et MD, Medical Dissertation. Donc il y a des docteurs en médecine et des docteurs qui ne sont pas des docteurs en médecine, en gros. Hein, bon, un peu comme ici d'ailleurs. Et il dit il faudrait développer des thèses. Alors, je ne sais pas comment on les appellerait, quelque chose de dit, si on parle anglais, comme dissertation, qui soit spécifique des gens qui sont au travail sur des problèmes d'éducation. Ce n'est pas pour l'idée de donner des thèses ou des masters, comme un breloque pour compassion envers les professeurs qui travaillent sur le terrain. C'est parce qu'en faisant ce travail-là, les professeurs peuvent jouer des rôles cruciaux, de mon point de vue, dans la recherche. Je pense même que je ferais volontiers une autre hypothèse, c'est que la qualité de la recherche en éducation sur ces questions d'enseignement est fonction directe du nombre de professeurs qui pourront entrer dans une perspective, qui pourront inventer une manière de faire de la recherche. Donc, il y a comme me le faisait remarquer Réjeanne, là, on peut en particulier s'intéresser au fait que les professeurs qui ont poussé loin ce processus, évidemment, ils ont une connaissance profonde et du métier de professeur, une connaissance en devenir du métier de chercheur, et qui va devenir de plus en plus quelque chose. Et donc, on pourrait imaginer vraiment le rôle crucial. Alors, bien entendu, je suis bien au courant, je connais des vrais professeurs, et donc, comme d'ailleurs des vrais chercheurs, et des vrais IPR, et des vrais IEN, et des vraies personnes de la DGESCO. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir de ce point de vue-là. Donc on pourrait imaginer, c'est ce que je dis tout à fait en dessous, un modèle inspiré de la clinique médicale. Par exemple, on discutait tout à l'heure comme ça avec Brigitte Grujon, avec un G, et non pas Brigitte Grujon avec un S, quoique j'ai aussi discuté avec Brigitte Grujon avec un S, mais je vous passe les détails. On discutait de la question des maîtres formateurs, par exemple. Les maîtres formateurs, à l'école, sont une invention extraordinaire. Parce que finalement, un maître formateur, c'est quelqu'un qui a un temps pour la formation des professeurs, un temps pour le travail de classe, et un temps, ça c'est encore des restes d'Ancien Régime, mais des bons restes d'Ancien Régime, un temps pour sa propre formation. Il suffit que le temps pour sa propre formation soit un temps pour la participation à la recherche au sein de l'EA, et on crée un praticien hospitalier de l'éducation. Évidemment, il n'y a aucune raison que cette histoire-là s'arrête au premier degré. Puisque maître formateur, ça n'est que dans le premier degré. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'avec la révolution en marche que constituent les SP, les maîtres formateurs qui étaient présents dans les UFM et bien présents, statistiquement, semblent l'être de moins en moins dans les SP. Alors, comme on dit, chercher l'erreur. Donc là, il y a vraiment... vous voyez, c'est encore une fois la révolution. Si on aime, c'est la révolution. Moi, ça m'intéresse assez. Par exemple, les révolutions scientifiques. Les révolutions naissent de la réalité des pratiques. On a, à deux pas d'entre nous, des pratiques qui devraient nous faire méditer sur ce que c'est que faire de la recherche en éducation. Tout ça, évidemment, c'est des idées, des hypothèses. faut bien dire quelque chose. Alors, autre point qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'écriture des articles. J'ai vu que dans certains LIA, il y a des articles reproduisant la division du travail, et dans les mêmes LIA, d'ailleurs, il y a des articles coécrits. Alors, division du travail, je veux dire, professeurs écrivent pour les revues professionnelles et les chercheurs écrivent pour les revues de recherche. Je pense qu'une proposition, ça serait vraiment de chercher à développer l'écriture conjointe d'articles, à la fois vers les revues professionnelles et vers les revues de recherche. Il n'y en a pas qui sont... Si, il y en a évidemment qui sont plus nobles que d'autres, mais on est en droit de récuser cette division ou cette sélection. Alors, je voudrais prendre l'exemple des lesson studies, dont je ne peux pas parler aujourd'hui, il me faudrait beaucoup de temps, mais les lesson studies, c'est vraiment une invention profonde des Asiatiques, comme le nom l'indique, et où en Chine et au Japon, on a construit, en Chine, au Japon, à Singapour, à Hong Kong, partout, on a construit des dispositifs où, dans le meilleur des cas, chercheurs et professeurs élaborent des séquences, les mettent en œuvre, les évaluent, les remettent en œuvre, les réévaluent, etc., dans un cercle vertueux. Donc il y a une revue qui s'appelle donc le journal international pour les lesson studies. Voilà, c'est celui-ci. Et quand vous regardez, par exemple, c'est une revue récente, comme vous le voyez, volume 1 2012, et quand vous regardez au hasard, je reviendrai peut-être sur le volume 2 tout à l'heure, le titre des articles, vous voyez, vers une science et un art du teaching, hein, par exemple... comment les incidents cruciaux, l'analyse d'incidents cruciaux soutient les lesson studies chinoises, les conditions critiques pour les professeurs, l'apprentissage des professeurs en formation à travers l'enquête, etc., etc. Développer des curriculums et des ressources pédagogiques pour l'apprentissage des professeurs, etc. Donc vous voyez là, et quand il y a vraiment un travail très étroit, très centré sur les problématiques des professeurs et très étroit entre professeurs et chercheurs, si bien que quand vous allez au congrès qui s'appelle WALS, World Association Learning Studies ou Lesson Studies, vous avez 600 personnes et vous avez 400 chercheurs et 200 professeurs, ce qui est rarissime évidemment dans un colloque de recherche qui est une telle proportion. Donc moi je pense qu'il faudrait réfléchir à créer une revue d'ELEA. Et une revue d'ELEA, ça serait pour moi une revue fondamentalement nouvelle et inédite. Par exemple, j'étais ce matin dans une salle, comme pas mal de gens, j'ai écouté des communications et je me suis dit que le niveau des communications, l'intérêt des communications et la nature des communications faisaient que... on pourrait faire un numéro spécial d'une telle revue et que c'était de niveau largement... égal à bien des revues de recherche internationales, mais que c'était d'une nature assez profondément autre. Ça, il faudra aller plus loin et montrer pourquoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un point crucial. Je crois que je vais un peu me dépêcher, sinon je vais me faire gronder. Donc, un autre aspect très important, c'est l'ELEA et la production de curricula, de programmes. Hein. On sait qu'il y a un rôle de certains ELEA dans l'élaboration des programmes. Et je me dis qu'on est en ce moment en train de faire des programmes, là, avec le Conseil supérieur des programmes, dont on a l'impression, à première vue, qu'il tente de faire vivre une façon de concevoir les programmes assez différente de ce qui s'est fait jusqu'alors. Et je pense que là, il faudrait vraiment participer très activement. Enfin, les ELEA pourraient participer très activement à la co-élaboration des programmes d'enseignement et des curricula. On a eu un séminaire international de l'IFE il y a quelques jours avec une chercheure américaine qui s'appelle Catherine Lewis, qui a parlé des lesson studies au Japon justement et qui a montré que Juste un exemple parmi beaucoup d'autres, mais enfin, un fait parmi beaucoup d'autres, c'est que, par exemple, au Japon, vous avez des écoles qui sont organiquement reliées à des laboratoires de recherche en éducation. Donc, ils mettent en œuvre des lesson studies. Et cette fois, je change, c'est plus le Japon, c'est Singapour. À Singapour, par exemple, c'est passé dans la loi. Il y a une loi qui dit que tout développement curriculaire doit nécessairement s'ancrer dans des lesson studies. Vous voyez, donc au niveau vraiment très antérieur de la conception des programmes, on, d'abord, tout bêtement, on regarde ce que ça donne, et puis on modifie. Hein, donc elle parlait, Catherine Lewis, là, de l'introduction dans les programmes japonais de la notion d'énergie, par exemple d'énergie solaire, et elle a montré comment ça avait été travaillé dans ce processus-là avec des résultats vraiment étonnants. Des résultats étonnants, si bien même qu'à un certain point de vue, si vous voulez à la fois vous faire plaisir et vous désespérer, vous regardez ces types de résultats, ces types de travail, et vous vous dites qu'il nous faudra, nous, en France, pourtant beau pays, 20 ans pour arriver à une telle intrication de la recherche et de la formation. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne les regarde pas, il ne nous faudra pas 20 ans, mais il nous en faudra beaucoup plus, quoi. Donc là, il y a vraiment des choses... On peut pas, ça serait un exposé en soi de réfléchir là-dessus, mais on ne peut pas se... Mais il faut vraiment y réfléchir. Non, c'est pas ça. J'ai dû router quelque chose. Voilà, je reviens ici. Pareil, rapport des cours d'encadrement et de l'administration, Léa. Alors, il me semble que quand on est dans l'administration, dans un corps d'encadrement, qu'on est inspecteur, qu'on est chef d'établissement, etc., on est tenu dans une sorte de dialectique entre rapport hiérarchique et rapport de coopération. Les propositions, et on voit des Léa qui ne pourraient être ce qu'ils sont, on a bien vu dans la journée, sans la participation active, intelligente et précieuse des corps d'encadrement et de l'administration, du ministère, de la DGESCO, etc. Donc je pense qu'il faudrait développer l'intégration directe des personnels d'encadrement au sein des Léa. Alors évidemment, là, la puce d'après, c'est intérêt et danger de l'approche anglo-saxonne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de le faire dans certains endroits. Dans le même séminaire international, Paul Cobb, qui est un chercheur en mass education, était venu montrer comment ça peut se faire dans une recherche qu'il conduit. Et il a travaillé en particulier sur les chefs d'établissement et aussi sur l'équivalent superintendent, l'équivalent d'inspecteur aux États-Unis, dans certains districts. Et il s'est dit qu'il pouvait avoir un rôle très profond et très pertinent, à condition qu'il y ait une formation, une co-formation, enfin, qu'il y ait l'idée de problèmes collectifs à résoudre collectivement, ouais, pour pouvoir avancer. Donc je pense qu'il y a une importance cruciale de la coopération avec le ministère et la DGESCO. Et ce que disait Brigitte d'Archiquequelin ce matin sur le réseau national local, si j'ai bien compris, ça me semble vraiment extrêmement intéressant. Et ça me semble être une condition sine qua non de l'industrialisation des Léa, en quelque sorte. C'est-à-dire du fait qu'on travaille sur à petite échelle et qu'il faut travailler à grande échelle. Et je pense que les personnels d'encadrement sont vraiment, pour moi, une des fonctions majeures. Ça devrait être. J'en connais des qui font ça, et très bien. Et donc, il me semble que c'est une de leurs fonctions majeures. Ça pourrait être l'interface recherche-terrain. Il y a, de mon point de vue, une responsabilité. Ils ont une responsabilité éminente vis-à-vis de ça. Et dernier point, donc c'est les remarques conclusives de la fin. Comme je le disais tout à l'heure, moi je suis frappé par les savoirs et les résultats de très grande qualité au sein de recherches passionnantes dans les Léa. Alors au départ, je m'étais dit peut-être que je vais en donner quelques-uns. de mon point de vue. Et puis je me suis dit que ce n'était pas finalement une bonne idée. Donc c'est pour ça que je les montre pas. Mais on pourrait très il faudrait faire un travail systématique de ça. Là où j'ai indiqué pas seulement résultat, mais aussi savoir. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train, vous êtes en train, nous sommes en train d'inventer quelque part une nature de recherche, une recherche d'une nature différente. Donc je pense que ça suppose ça, pour faire deux minutes de réflexion épistémologique, ça suppose une épistémologie vraiment spécifique. Hein. Ce que j'appellerais, c'est un livre très récent de Serres qui explique que, de Michel Serres, qui fait un livre d'entretien, où il dit à peu près la chose suivante. Il dit, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir quelque chose et de voir en quoi ça peut se généraliser. Lui, il dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Et en plus, on a des instruments aujourd'hui pour penser autrement. Alors, que faut-il faire selon Michel Serres, ou même d'ailleurs selon une épistémologie de l'analogie paradigmatique dont je dirai un mot tout à l'heure. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on peut faire selon cette idée, c'est creuser des singularités, et c'est en creusant la singularité et en mettant en rapport, en constellation, c'est très foucauldien comme idée aussi, avec d'autres singularités qu'on obtient de l'universel. Donc c'est une espèce de dialogue entre singulier et universel. Je renvoie à cette puce-là, qui n'est pas la même chose que l'idée biologique, quoique même combattue en biologie par certains biologistes, entre genre et espèce, par exemple. C'est l'idée de... Autrement dit, si vous voulez bien comprendre des choses universelles sur les Léas, eh bien, creusez autant que faire se peut tel Léa particulier ou tel autre, et mettez ce que vous trouvez en synergie ou en relation, pas forcément en comparaison, mais en tous les cas en synergie ou en relation. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une épistémologie, peut-être même une épidémiologie, de l'analogie paradigmatique, paradigme au sens de Kuhn, sens 2 de Kuhn. Vous savez, Kuhn, il disait, Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, il disait, en fait, tout le monde, quand on dit paradigme, quand j'ai écrit le bouquin sur les paradigmes, dit Kuhn, a pensé que paradigme, c'était une matrice disciplinaire. Mais en gros, il dit, ça, c'est pas du tout intéressant, c'est tout à fait secondaire. Moi, ce que j'ai voulu montrer dans les paradigmes, c'est l'idée d'exemple exemplaire. Un paradigme, c'est un exemple exemplaire, c'est-à-dire, c'est un exemple qui montre comment une communauté s'approprie, comment une communauté résout un problème. C'est ça un paradigme, au sens de chez Kuhn. Donc je pense qu'on pourrait imaginer ça. Les Léas montrent comment on peut résoudre certains problèmes de la pratique, et on a une sorte de kaléidoscope très vaste, de constellation très vaste, de manière différente de résoudre des problèmes de la pratique qu'on considère comme analogues. Donc, je termine là-dessus. Ça voudrait dire que, par exemple, dans les Léas, on ait des programmes de thèse financés. J'en reviens. Mais là, c'est plus simplement l'idée qu'il y ait des financements de thèses, mais qu'il y ait des programmes de thèses financés. Qu'il y ait des thèses monographiques. Alors, après l'exposé de ce matin, qui était extrêmement intéressant, de Philippe Savoie, j'ai ajouté ceci-là. Monographie d'un nouveau genre lié. Vous voyez, l'idée de monographie d'un nouveau genre, c'est tout à fait en lien avec ce que je dis là de l'analogie paradigmatique. C'est-à-dire, vous allez prendre un Léa, le travailler de très près, essayer de trouver, de comprendre sa singularité. Et si vous faites ça sur plusieurs Léas liés, vous allez finalement, l'hypothèse, c'est que vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce que peut être, sur ce qu'on ne sait pas, mais sur ce que peut être un Léa. Et donc, à travers ça, alors il y a un exemple de plusieurs Léas qui font ça. Là, je ne citerai pas l'exemple d'un Léa, mais je citerai l'exemple d'un livre, puisque je vois son auteur qui trône ici au premier rang, qui est Henri Gault, qui a écrit un livre qui s'appelle Freiner avance. Bon, ben, Freiner avance, c'est une étude monographique de l'école Freiner de Vence. Ce que j'appelle étude monographique, ça ressemblerait un peu à ce qu'a fait Henri Gault sur Freiner avance. Donc ça pose, ça, je m'arrêterai là, la question dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais qui est pour moi vital, c'est que finalement, on en a parlé ce matin avec la question de l'innovation. Alors, ce n'est pas la question de l'innovation ici qui m'intéresse vraiment, mais c'est celle de la reconstruction de la forme scolaire. L'idée est simple, c'est que la démocratie n'a pas construit sa forme scolaire propre. Nous devons construire la forme scolaire qui correspond à la démocratie. Et les Léa peuvent jouer un rôle majeur pour construire la forme scolaire, pour reconstruire une forme scolaire qui correspond à la démocratie. Voilà. Merci.